Apocalypse Now sur Wii FM avec Iris.
Bonjour à toutes et à tous, comme chaque semaine sur Wii FM, on parle rock et cinéma. On l'a déjà dit, si la musique en général et le rock en particulier traversent les âges, elle reste malgré tout l'un des plus forts marqueurs temporels. Pas étonnant alors que la bande originale d'un film comme Super 8 en recèle plus d'une. Il faut dire que Super 8, c'est la Madeleine de Proust par excellence. La déclaration d'amour du réalisateur J.J. Abrams au cinéma, à l'enfance et à Spielberg, qui est un peu un mélange des deux. Il nous renvoie en 1979 dans une petite ville des États-Unis. Alors qu'un groupe d'ados est en train de tourner un film en Super 8, ils sont témoins d'une catastrophe ferroviaire. Ils vont vite s'apercevoir que cela n'a rien d'un accident et que des événements inexpliqués arrivés récemment en ville y sont très probablement liés.
Un train de marchandises a déraillé cette nuit. On ignore encore ce qu'il transportait.
Il faut parler à personne.
Je sais.
Je comprends que vous ayez quelques inquiétudes.
Colonel, vous ne me cachez rien dans cette affaire.
Je vous assure que la réponse est non.
J'ai des dégâts matériels, j'ai des vols. J'en suis à 9 disparitions. Il se passe des choses dans le coin que je n'arrive pas à expliquer.
À la fois hommage aux films de science-fiction des années 70 et à ceux sur le passage à l'âge adulte qui ont clairement bercé l'enfance et inspiré le cinéma de J.J. Abrams, Super 8 se devait d'avoir une BO à la hauteur. Et ça commence d'ailleurs dès les premières scènes, où la bande de potes discute de leur futur film à la sortie de l'école. Dans le fond, les premières mesures de Don't Bring Me Down d'Electric Light Orchestra. Mais plutôt qu'une illustration très littérale, J.J. Abrams instille ses morceaux références à différents moments du film et leur donne même un rôle à part entière dans certaines scènes. Comme lorsque Joe et ses copains attendent qu'Alice, leur actrice et seule du groupe à avoir le permis de conduire, passe les prendre pour se rendre sur le tournage. À l'origine, les garçons devaient juste l'attendre en bavardant. Mais c'est en les entendant chanter entre les prises qu'Abrams a l'idée de plutôt modifier la scène. Il la tourne à nouveau, mais cette fois-ci en les faisant s'ambiancer sur My Sharona de The Knack. Si dans la très spectaculaire séquence de l'accident de train, J.J. Abrams choisit au contraire de ne mettre aucune musique pour laisser le son des explosions et de la tôle froissée emplir l'écran, dans celle, tout aussi intense mais plus sans suggestion de la station-service, elle est cette fois-ci un élément moteur et humoristique de l'histoire. Dans cette scène, le spectateur aperçoit pour la première fois la créature extraterrestre. Et c'est parce qu'il a un Walkman vissé sur le crâne, où il écoute Heart of Glass de Blondie à fond, que le pompiste n'entend pas en arrière-plan les cris du shérif, ni sa voiture soulevée de terre par le monstre venu de l'espace. Seul l'éclairage qui se met à clignoter lui fera prendre conscience, trop tard, que quelque chose ne tourne pas rond. Dans quelques instants, le jeune homme tentera de s'enfuir avant de se faire happer par les pieds, tracté par la bête hors du cadre, comme dans tout film d'horreur classique qui se respecte. Le décalage entre les paroles et la rythmique très disco du titre renforce l'humour suggéré de la scène et la connivence entre J.J. Abrams et son spectateur. Succès inattendu du groupe Blondie en 78, Heart of Glass prend le contre-pied des traditionnelles chansons d'amour. Fier de ses racines punk, Debbie Harry se dit lassé à l'époque d'entendre des chanteuses abattues par le chagrin et décide d'écrire une chanson à propos d'une femme qui se barre et laisse son mec en plan. Écrit très tôt après sa rencontre avec Chris Stein, l'autre membre du duo, le morceau, simplement intitulé « The Disco Song », reste plusieurs années dans les tiroirs. Il faut dire que si le disco est à la mode à l'époque, il est très mal vu dans le monde du punk et de la New Wave où navigue Blondie. Heart of Glass est d'ailleurs d'abord enregistré sur un rythme reggae, mais Chris Stein a toujours voulu faire un titre disco. Le résultat est donc cette rencontre entre le punk et l'eurodisco. Un titre que le groupe jouera selon Debbie Harry pour énerver les gens qui ont l'esprit obtus et qui n'acceptent qu'un style de musique. Autre effet poil à gratter, mais pour les radios américaines cette fois-ci, les rimes en as. Dans le refrain, Debbie Harry fait répondre dans un premier temps à Once I had a love and it was a gas, l'allocution Soon turned out a pain in the ass. Un emmerdeur en VO quoi. Bon, bah ça, à l'époque, aux États-Unis, ça passe pas. Pour pouvoir être diffusé sur les ondes, une version est réenregistrée avec Soon Turned Out Had a Heart of Glass. Ça ne l'empêche pas de cartonner, au point que John Lennon lui-même conseille un jour à Ringo Starr d'écrire davantage de chansons comme Heart of Glass. La classe ou la classe ? Quant à la scène de la station-service, une anecdote qui vous servira pour toute la filmo de J.J. Abrams. Le nom Kelvin, qui semble être la marque de la station essence, un peu comme BP ou Total, est un nom qui apparaît très souvent dans les productions du cinéaste. Pourquoi ? Parce que c'est une référence à son grand-père, celui qui lui a fait visiter les studios Universal quand il avait 8 ans, visite qui a déclenché son intérêt pour le cinéma. Arocalypse Now, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode.
Retrouvez tous les épisodes d'Arocalypse Now en podcast sur wfm.fr.